Je vous demande de tourner vos Bibles dans le Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu. Chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. On va lire à partir des versets 14 jusqu'à 30. C'est la parabole que Jésus-Christ l'a racontée quand il était sur la terre. La parabole, on appelle la parabole des talents. J'intitulais ce message comme une question. Un serviteur utile ou inutile? Un serviteur utile ou inutile? Donc on va lire ce passage, Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme, qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Verset 24, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans la ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc, c'est ça la parabole que Jésus a racontée à ses disciples. En lisant ce passage d'Écriture, nous comprenons que ce sont des paroles du Seigneur Jésus pendant qu'il s'instruisait ses disciples et aussi la foule. Nous comprendrions peut-être mieux le texte si nous pouvions le replacer dans son contexte. Jésus prêche à ses disciples à peine avant 3 jours de sa mort sur la croix, c'est-à-dire pendant le temps de la Pâque. Il est en train de parler de son royaume céleste. La parabole de 10 vierges précède cette parabole. Nous pouvons trouver cette parabole dans l'évangile synoptique de Luc, qui est raconté un peu différemment, juste après que Jésus ait eu rencontré Zachée, le publicain, qui aspirait à voir Jésus et qui a été sauvé. Nous savons que, entre autres choses, si Jésus racontait cette parabole à la veille de sa mort, la plus ignominieuse et la plus cruelle sur la croix, la vérité et la doctrine derrière cette parabole sont pour nous qui sommes ses disciples aujourd'hui pour que l'on puisse prêter attention à ses paroles. Inclinons la tête dans la prière. Seigneur, aide-nous à comprendre cette parabole et son message pour nous ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères et les gens qui ont dit pourquoi parle-t-il toujours en parabole. Nous sommes des créatures humbles avec une connaissance et une compréhension limitées. Le psalmiste a dit qu'avec avec ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Seigneur, s'il te plaît, fais briller ta lumière sur nous ce matin, alors que nous ouvrons ta parole. Nous prions pour que ton esprit nous aide dans notre compréhension de la parole divine. Ouvre les yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir les merveilleuses vérités cachées dans les pages de ta sainte parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, qu'est-ce que une parabole? Une parabole est littéralement quelque chose posé à côté de quelque chose d'autre. Les paraboles de Jésus étaient des histoires qui étaient posées à côté d'une vérité afin d'illustrer cette vérité. Ces paraboles étaient des aides pédagogiques et peuvent être considérées comme des analogies étendues ou des comparaisons inspirées. C'est une description courante d'une parabole, et qu'il s'agit d'une histoire terrestre avec une signification céleste. Pendant un certain temps de son ministère, Jésus s'est beaucoup appuyé sur les paraboles. Il en a raconté beaucoup. En fait, selon Marc 4, 34, il ne leur parlait pas sans paraboles. Il y a environ 35 paraboles de Jésus enregistrées dans l'évangile synoptique, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au début de son ministère, Jésus n'utilisait pas des paraboles. Soudainement, il s'est mis à parler exclusivement via des paraboles, à la grande surprise de ses disciples qui lui demandèrent, je vais lire de Matthieu 13, 10 à 13, « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître des mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » C'est-à-dire des autres, car on en donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui l'a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Mais comme nous avons vu que Dieu est omniscient, il connaît le cœur de chaque personne. Il voit, on peut avoir les yeux ouverts, mais de ne pas voir. On peut avoir les oreilles bien découvertes et de ne pas écouter, de ne pas entendre la parole de Dieu. Donc, c'est pour cette raison, à cause du durcissement du cœur du peuple, il n'est pas parlé directement, il commence à parler avec des paraboles. Jésus a expliqué que l'utilisation de paraboles avait un double objectif, révéler la vérité à ceux qui voulaient la connaître et dissimuler à ceux qui étaient indifférents. Dans le chapitre précédent, de Matthieu 12, les pharisiens avaient publiquement rejeté leur Messie et blasphémé le Saint-Esprit, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe, parlant d'un peuple au cœur dur et spirituellement aveugle. On peut lire ça dans Isaïe 6, 9 à 10. La réponse de Jésus a été de commencer à enseigner en parabole. Ceux qui, comme les pharisiens, avaient un préjugé défavorable à l'enseignement du Seigneur, rejetaient les paraboles comme des absurdités sans intérêt. En revanche, ceux qui recherchent vraiment la vérité la comprendraient. Jésus s'est assuré que ses disciples comprenaient le sens des paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Par exemple, en Marc 4, chapitre 4, nous voyons, après avoir raconté certaines de ces paraboles, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'était un appel à écouter les paraboles, non pas comme on écouterait une histoire ordinaire, mais comme quelqu'un qui recherche la vérité de Dieu. Que Dieu nous accorde à tous des oreilles pour entendre vraiment. Donc, le premier verset de chapitre 25 de Matthieu, nous sommes dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Donc, le premier verset, verset 14 de notre passage, hein, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Notez que Matthieu 25, 14 commence par « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage. » Reliez cela au verset précédent. Tout comme Matthieu 25, 1, dans le même chapitre, le verset 1 a commencé « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Car il est exactement semblable, les deux, la façon que les deux paraboles commencent. Il fait référence au royaume des cieux. Les deux paraboles font référence au royaume des cieux. Cette parabole des talents présente une autre analogie avec le royaume des cieux. Et ici, nous voyons la relation entre l'esclave et le maître. Dans notre version, on peut peut-être lire comme le mot utilisé, c'est « serviteur ». Mais le mot « serviteur », c'est aussi le mot « esclave ». Quand un maître allait en voyage à l'époque biblique, il devait être absent pendant des semaines ou des mois, car voyager, c'est beaucoup plus difficile et prenait beaucoup plus de temps. Si nous allons dire que je vais prendre des mois pour aller quelque part, nous n'allons pas croire. Car nous vivons dans une époque où voyager, ça ne prend pas beaucoup de temps. Quelqu'un devait superviser les affaires de son entreprise et son ménage. Et cela était souvent confié à des serviteurs, et c'est ainsi que se déroule cette parabole. Le maître part en voyage. Donc le maître convoqua ses serviteurs pour leur confier ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1, chacun selon ses propres capacités. Et il continua son voyage. L'expression « chacun selon ses capacités » est très importante, c'est crucial. Il donna 5, 2 et 1 et à chacun selon ses propres capacités. Ses biens étaient divisés entre ses serviteurs, mais ils n'étaient pas divisés en parties égales. Il n'a pas donné 5 à chacun, il n'a pas donné 1 à chacun. Il donna 5 à un, 2 à un autre et 1 à un autre, un troisième. Le mot talent est utilisé bibliquement dans un sens différent de celui que nous pensons normalement. Un talent au temps biblique était une somme d'argent. Un talent était vraiment un poids, quelque part entre 58 et 80 livres d'argent, le métal, comme l'or. Donc c'est énorme. Ce qui pouvait être une grosse somme d'argent. C'est difficile à traduire de nos jours, mais un commentateur qui a tenté de faire une comparaison avec la valeur a noté que 5 talents seraient équivalents à ce qu'un ouvrier gagnerait en 20 ans. Cela aurait été une grosse somme d'argent, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons que le maître, il donne ses biens, il divise parmi ses trois serviteurs, il donne, il confie. Et maintenant, nous pouvons voir les responsabilités de l'esclave. Se mettre divisé ses biens en fonction de la capacité du serviteur. Cela donne un aperçu. Le maître prenait en compte les capacités et les capacités de chaque serviteur et les confiait en fonction de leurs capacités. Cela implique une capacité, évidemment, de la part du serviteur. Cela implique aussi la responsabilité. Imaginez que si quelqu'un vous confie quelque chose, nous sentons responsables pour les choses qu'il a confiées à vous. Nous allons garder avec beaucoup d'attention. Donc, cela implique aussi la responsabilité. Il s'attendait à ce que ses serviteurs fassent quelque chose avec ce qu'il leur avait donné. Sinon, il ne serait pas nécessaire de mesurer leur capacité. Donc, il y a une anticipation. Il aurait pu confier cette somme d'argent à un banquier, mais il n'a pas fait ainsi. Il donna à ses serviteurs. Il s'attendait à ce que ses serviteurs fassent quelque chose avec ce qu'il leur avait donné. Sinon, il ne serait pas nécessaire de mesurer leur capacité. Ils reçurent, selon leur capacité, une somme que le maître avait déterminée et qu'il serait en mesure d'utiliser en bon sens à son avantage. Ce n'était pas une option de la part d'un esclave de servir. Vous savez, mais aujourd'hui, on peut être serviteur, on peut travailler. Mais souvent, nous avons le choix de travailler ou ne pas travailler. Mais à l'époque, ce n'était pas un choix. Un esclave, il n'avait pas le choix que de servir son maître. Donc, ce n'était pas une option de la part d'un esclave de servir. C'était une exigence d'un esclave qu'il sert. Et ce qui était confié à l'esclave était les biens du maître et devrait être utilisé au profit du maître. Donc, un serviteur devrait voir tout l'intérêt de son maître. Mais aujourd'hui, nous avons le syndic qui voit l'intérêt d'un employé. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, un serviteur devrait voir l'intérêt, premièrement, l'intérêt de son maître. C'est un point important. Ce n'est pas une option pour un esclave. Un esclave sert son maître et son service est au profit du maître, pas des esclaves ou de qui que ce soit d'autre. La responsabilité d'un esclave était de servir et de servir immédiatement. On ne peut pas, on laisse le maître partir, je vais prendre une vacance, après un mois je commence à travailler. Ce n'était pas ainsi. Donc la responsabilité d'un esclave était de servir et de servir immédiatement. Regardez le verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Donc le serviteur, il se met en œuvre immédiatement. La parole nous dit que aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Je pense que les serviteurs de Jésus Christ ont parfois l'idée qu'ils peuvent s'arrêter et de se détendre. Je parle de nous. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais il n'y a pas de congé sabbatique pour les esclaves, pour les serviteurs. Vous savez, il n'y a pas de congé sabbatique, mais parfois on peut entendre que les gens disent que je vais prendre un congé sabbatique. Je vais abandonner ce que je suis en train de faire. Je vais me mettre à l'écart pour réfléchir. Pour un chrétien, est-ce qu'il y a des congés sabbatiques? Nous, en tant que serviteurs de Christ, nous devons le servir tout le temps. En tant que disciples, nous devrions servir Dieu tout le temps. Immédiatement, celui qui avait reçu les 5 talents sortit et se mit à travailler avec les possessions de son maître. Il y ajouta 5 autres talents. Donc, il multiplie ce qui était confié à lui. Et le deuxième esclave sortit aussi et commença à servir, à utiliser à bon escient ce que son maître lui confiait pour le bénéfice de son maître. Regardez le verset 17. De même, celui qui avait reçu les deux talents, en gagnant deux autres. Il n'a pas pensé que lui, il a reçu 5 talents, donc c'est normal qu'il travaille. Et moi, j'ai reçu que 2 talents. Donc, quand même, le maître, il n'a pas estimé correctement. Donc, je vale plus que ce qu'il pense. Donc, je vais attendre. Il n'est pas fait comme ça. Lui aussi, celui qui a reçu les 2 talents, il est parti aussitôt. Il a multiplié ce que le maître lui confiait. Le troisième serviteur est le plus difficile à traiter dans cette parabole. Il en sortit en creusé un trou. Regardez le verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Nous pourrions spéculer toutes sortes de raisons pour lesquelles il irait cacher l'argent. Peut-être qu'il est allé le cacher parce qu'il ne pensait vraiment pas que son maître reviendrait un jour. S'il le laissait à un banquier, il y aurait une trace. Et si quelque chose arrivait à son maître, l'argent avec le banquier irait dans la succession de son maître. Donc on peut deviner beaucoup de choses. Mais pourquoi il aurait caché l'argent? Mais s'il entrerait dans le cour et que son maître ne revenait jamais, il pourrait le déterrer et l'utiliser pour lui-même. Peut-être l'a-t-il caché juste pour pouvoir assurer au maître que c'était sûr. Quel que soit le but de l'esclave, lorsque le maître revint, cet esclave était traité en jugement. Le fait est qu'il était un serviteur indifférent et paresseux qui était amer envers son maître. Alors, nous avons vu un peu mardi soir, il était amer envers son maître. Son attitude envers son maître se reflétait dans ce qu'il faisait de bien de son maître. Ce serviteur méchant haïssait son maître. Il ne le servait donc pas fidèlement. Il n'avait pas d'amour pour son maître. Après un long moment, le maître revint. Regardez le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Encore une fois, il est souligné comme cela a été plusieurs fois dans Matthieu 24 et dans Matthieu 25, quand longtemps s'est écoulé. Dans les paraboles, il y avait un laps de temps. Longtemps s'est écoulé. Cela indique qu'il y a une grande période entre la première venue du Christ et la seconde. Le retour du maître représente la venue de Jésus-Christ pour demander des comptes à son peuple Israël. Gardez à l'esprit que cette parabole traite de la nation Israël et les serviteurs de Dieu. Les Juifs sont des serviteurs de Jéhovah, même si tous les Juifs ne sont pas croyants. Ils ont cette relation en tant que nation, même si tous les Juifs n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. C'est le peuple choisi par Dieu. Et maintenant, nous voyons la récompense pour l'esclave fidèle, pour le serviteur fidèle. Le maître revint et appela ses serviteurs pour rendre compte. Regardons ensemble les versets 19 à 23 dans le passage. Matthieu 25, 19 à 23. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Les deux serviteurs, ils sont reçus, un qui a reçu cinq, il a doublé. Et l'autre, il a reçu deux, lui aussi, il a doublé. Et ils ont été récompensés sur la base de leur fidélité personnelle et cela a été mesuré en fonction de leur capacité. Celui qui a reçu deux talents n'était pas obligé d'ajouter cinq. N'est pas obligé d'ajouter cinq talents à cela. Il était obligé d'être fidèle à ce qu'il avait selon ses capacités. Il était jugé à ce niveau. Celui qui avait cinq talents était jugé de la même manière. Tous deux ont été récompensés pour leur fidélité. Dedans, ce n'est pas leur capacité. Le Seigneur, il connaissait leur capacité. Mais la récompense n'était pas par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais c'est par rapport à leur fidélité. Comment ils sont montrés fidèles à leur maître? Comment ils ont aimé leur maître? Celui qui avait cinq talents n'a pas été félicité plus haut, parce qu'il a gagné plus. Le maître a dit qu'ils étaient tous les deux de bons et fidèles serviteurs. Le mot fidèle élabore le mot bien. Il était bon parce qu'il était fidèle. C'est la marque clé d'un serviteur ou d'un esclave, la fidélité. La demande primordiale d'un esclave est qu'il soit fidèle à son maître. Tous deux étaient fidèles selon les capacités qu'il avait. Mais souvent, nous mesurons, même parmi nous, nous pourrons mesurer par rapport à notre propre capacité. Parfois, nous sommes plus cruels que des autres. Nous pensons que nous n'avons pas beaucoup de capacités. Mais ou bien on peut mesurer les autres par rapport à leurs capacités. Mais le Seigneur, il voit notre fidélité. Comment nous sommes fidèles à notre maître céleste. Le maître a dit qu'il les mettrait en charge de beaucoup de choses parce qu'il avait été fidèle avec peu de choses. L'homme qui a reçu cinq talents avait reçu le somme totale de tout ce qu'un homme gagnerait en 20 ans. Je dirais que c'est un montant important, mais selon ce don, il allait être chargé, ce n'était qu'une petite somme. Et maintenant, nous allons voir le jugement pour l'esclave méchant et paresseux. L'esclave avec un seul talent représente les Juifs qui ne sont pas préparés pour le Messie, qui n'ont pas fait confiance, qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. Regardez les versets 24 et 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'es pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » L'attitude envers le caractère de son maître était une attitude de haine et d'amertume. Cet esclave le voyait comme un maître dur. Il aurait dû penser pourquoi le maître il est revenu. Il n'était pas content de voir son maître. Il n'attendait pas son maître. Il ne voyait aucune bonté en son maître. Il n'avait aucune appréciation du fait que le maître avait tenu compte de ses capacités et lui avait confié ses biens en fonction de ses capacités. Mais bien souvent, nous pourrons murmurer « Pourquoi je n'ai pas de talent comme tel ? Pourquoi je n'ai pas reçu le talent de faire telle chose comme tel frère ou telle sœur ?» Et cette attitude, ça peut créer une amertume en nous-mêmes. et ça peut nous décourager. Mais le maître, il a tenu compte de ses capacités, il a quand même donné un talent. L'esclave croyait même que le maître avait pris ce qui ne lui appartenait pas. S'il croyait vraiment que c'était le caractère de son maître, pensez-vous qu'il aurait caché le talent? Il savait que son maître exigeait encore plus qu'il donnait. Il voyait un maître très exigeant. Qu'est-ce que cet esclave, que son maître exigerait de lui? L'esclave aurait dû reconnaître que son maître exigerait plus que ce que le maître lui a donné. Notez l'attitude de l'esclave envers le caractère de son maître et ses actions qui suivent. C'était un serviteur méchant. Par rapport à la parole, là, c'était un serviteur méchant dont il n'est pas servi. Les deux premiers étaient bons et fidèles. C'est la fidélité qui faisait de bons serviteurs. Mais celui-ci qui n'était méchant et paresseux, il a manifesté sa méchanceté parce qu'il n'est pas servi. Dieu utilise ceux qui sont en train de lui servir. Dieu n'utilise pas ceux qui sont paresseux. Mais si vous regardez dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous pouvons toujours voir que Dieu appelle les gens qui sont déjà occupés. Ils sont en train de faire quelque chose. Il n'appelle pas celui qui croise le bras, s'assoit. Donc il alla enterrer dans le sol ce qui lui avait été confié. Est-ce la responsabilité d'un esclave juste de prendre ce qui lui est confié et de l'enterrer? Et si on devrait enterrer l'argent, mais pourquoi le maître le devrait donner à son serviteur? Il a donné puisque il peut fructifier, il peut multiplier l'argent, il peut faire quelque chose avec. Non, il était responsable d'être fidèle à ce qui lui était donné. La réponse a été le jugement. La réponse de ses actes était le jugement de son maître. Regardez le verset 26. Le verset 26 et 27. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Donc, c'est avec beaucoup de regret, le maître dit que j'aurais pu, si c'est le cas, j'aurais pu laisser avec un banquier et j'aurais pu retirer ce que j'avais confié avec un intérêt. Mais ce sera quoi de te donner l'argent puisque tu peux enterrer ses talents? Le maître n'a pas nié l'accusation selon laquelle il était un homme dur. Il a juste montré à quel point l'excuse était ridicule. La méchanceté de l'esclave a entraîné la paresse. L'esclave savait que le maître demanderait plus de lui, mais il ne l'a pas fait. Cela indique qu'il était un esclave infidèle, un serviteur infidèle, un serviteur méchant et un serviteur paresseux. Par conséquent, le jugement doit venir. Maintenant, nous pourrons voir le contraste entre le bon et le fidèle et le méchant et paresseux. Il y a deux classes de personnes ici. Le bon est fidèle et le méchant est paresseux. Un contraste a été établi entre le bon et le fidèle et le méchant et les paresseux. Le verset 28 et 29, « Ôtez-lui dont le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Donc le premier. « Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » En jugement, le maître a dit d'enlever le seul talent et de le donner à celui qui en avait 10. Le principe établi est que celui qui a recevra plus, celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera enlevé de lui. Ce principe est établi dans le contexte du jugement. Il n'est pas nouveau. Christ l'a utilisé dans Matthieu pour parler à la génération de son époque, à sa première venue. Dans Matthieu 13, 10 à 12, je vais lire ce passage. Jésus enseignait des paraboles liées à son royaume terrestre. Les disciples approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Jésus leur dit qu'il leur avait été accordé de connaître la nouvelle vérité concernant le royaume qu'il établira sur la terre. Pour les autres, elle n'avait pas été accordée. Le contexte dans Matthieu 13 est Jésus parlant de la vérité liée au royaume des cieux, et tous les Juifs, en vertu d'être Juifs, avaient ces promesses et prophéties de l'Ancien Testament liées au royaume que le Messie établirait. Donc il avait cette connaissance, les Juifs de l'époque de Jésus, les pharisiens, et les scribes, ils avaient cette connaissance sur le royaume des cieux. Et Christ leur donnait de nouvelles informations maintenant. Mais pour ceux qui n'ont pas cru à la vérité de l'Ancien Testament, ils n'y ont pas répondu. Il n'y aura pas de nouvelles vérités ajoutées à elles. En fait, ils perdront même la vérité qu'ils avaient. Donc, quand Christ il a révélé une nouvelle vérité sur le royaume des cieux, ceux qui avaient cette information préalablement, qui n'ont pas cru, ceux qui l'avaient, même ils perdaient ce qu'ils avaient. Mais à ses disciples, et nous sommes inclus dedans, Christ révèle la nouvelle vérité. Donc celui qui n'a pas ce qu'il a sera ôté. Et celui qui a peu de choses, il aura plus. Il y a une division. On donne plus de vérité aux croyants. On l'ajoute à ceux qui l'ont, mais l'incroyant perd même ce qu'il a. Les Juifs perdront la compréhension du royaume qu'il avait jusque-là. Cela est démontré en Israël aujourd'hui. Ils n'ont même pas la compréhension du royaume tel qu'il est prophétisé dans l'Ancien Testament que les Juifs à l'époque de Jésus avaient. Ils ont perdu le peu qu'ils avaient. Selon Matthieu 25, même le peu que ces Juifs incroyants avaient va maintenant être enlevé dans le jugement et ajouté dans le contexte du royaume à ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Dans la parabole de Matthieu 25, il était clair que les esclaves avaient été confiés avec un talent qui était une somme d'argent. Ce qui a été confié à Israël n'est pas clairement exposé dans Matthieu 25, mais l'une des possessions de Dieu qui a été confiée à Israël est la vérité de Dieu. Dieu a confié sa vérité sur le royaume des cieux, premièrement aux enfants d'Israël, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. C'est le contexte de Matthieu 13, la vérité concernant le royaume des cieux. Le point central de deux premières paraboles de Matthieu 25 est Israël et la vérité concernant Israël. La première partie de cette Matthieu 25, c'est le 10 vierges. Ça parle du royaume des cieux, d'être prêt pour le royaume des cieux. La deuxième partie parle des serviteurs. En attendant le royaume des cieux, nous ne pouvons pas être des serviteurs paresseux, mais nous devrions travailler pour le Seigneur. C'est ça la vérité qui est dans ces deux paraboles. Le point central des deux premières paraboles de Matthieu 25 est Israël et la vérité concernant Israël. Certains des privilèges confiés à Israël se trouvent dans Romains 9. Si vous voulez bien, vous pouvez tourner, gardant la page, mais vous pouvez prendre Romains 9. On va lire de versets 3 à 5. C'est l'apôtre Paul qui écrit, c'est par rapport à Israël, Romains 9, versets 3 à 5, Paul a écrit, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » Quand il dit ses frères, lui-même il était juif, ses confrères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc l'apôtre Paul, il dit que je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour ces gens-là pour qui la vérité était révélée, la vérité était donnée. Dieu a appelé Israël comme mon premier-né. Il avait une place spéciale pour ce peuple dans son plan, dans le plan de Dieu. Israël avait la première place. Mais Israël, ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas cru en le Messie. Paul était juif. Il dit d'Israël, de ses parents, que tout cela a été donné à la nation Israël. C'est avec Israël que Dieu avait conclu une relation d'alliance. C'est Israël que Dieu avait adopté comme ses fils. C'est Israël qui avait reçu la loi de Dieu au Sinaï. C'est Israël qui avait reçu le temple pour adorer Dieu. Les promesses relatives au Messie et au royaume sont venues en Israël. Les pères Abraham, Isaac et Jacob étaient des Juifs par l'intermédiaire desquels les promesses ont été faites. Le Messie lui-même était juif. Tous ses biens précieux avaient été confiés. Quand je dis ses biens précieux, c'est la vérité de Dieu, avaient été confiés à Israël. Mais quand on a fait Israël, ils n'ont rien fait. Ils ont rejeté le Christ, le Messie, et l'ont crucifié. Avec toute cette révélation, ils n'ont rien fait. Mais ils ont rejeté Christ le Messie et l'ont crucifié. Quand Jésus-Christ viendra la deuxième fois, la nation d'Israël sera appelée à rendre des comptes. Dieu les jugera pour ce qu'ils l'ont fait, ce qu'ils l'ont fait de bien, qui leur ont été confiés en tant que serviteurs. Le Juif qui croyait en la vérité que Dieu leur avait confiée avait leur vie transformer et le servir fidèlement. On peut penser aux apôtres, ils ont tous été des juifs. Ils avaient leur vie transformée et le servir fidèlement. Mais pour ces serviteurs méchants, qu'ils n'avaient rien fait de ces biens, et pour que la vérité est tombée dans l'oreille d'un sourd, le résultat est le jugement. Matthieu 25, 30 conclut la parabole. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et le grincement des dents. Le troisième esclave était un esclave méchant, un serviteur méchant, et paresseux, contrairement aux esclaves bons et fidèles. En jugement, ce qu'il avait, lui, a été enlevé. Ainsi, toute prétention qu'il aurait pu avoir en tant que juif, comme la possession des promesses et la relation avec le Messie et avec Abraham, Isaac et Jacob, a été perdue. Contrairement à l'esclave bon et fidèle qui a été chargé de beaucoup de choses. Et finalement, l'esclave méchant a été jeté dans la ténèbre extérieure et l'endroit où il y a des pleurs et des grincements des dents. Contrairement au bon et fidèle serviteur qui était entré dans la joie de son maître. Cette expression de jugement illustre le jugement de ces juifs qui seront exclus du royaume que la Messie établira. Cette expression a été utilisée quelques autres fois dans Matthieu, dans Matthieu 8, 8. Christ a été témoin d'une grande démonstration de foi de la part d'un païen. Il a dit, quand Jésus entendit cela, je vais lire pour vous, Matthieu 8, 8. Quand Jésus entendit cela, il s'émerveilla et dit à ceux qui suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. On comprend mieux l'histoire du peuple juif quand nous voyons comment ils ont rejeté le Messie, comment ils n'ont pas, ayant la vérité, mais ils ont perdu ce qu'ils avaient, car ils ont rejeté le Messie. Et maintenant, le peuple de l'Orient et l'Occident viendront, ils seront en communion avec Abraham, Isaac et Jacob et avec Dieu lui-même. Jésus parlait du royaume qu'il établira. Il a dit que beaucoup viendront de toutes les parties du monde pour profiter de la communion dans son royaume. Puis il a fait référence aux fils du royaume, les Juifs, et a utilisé cette expression pour décrire le jugement sur ces Juifs qui sont rejetés, détournés de l'entrée dans le royaume et jetés dans les ténèbres. Donc, qu'est-ce que marque un enfant de Dieu? Qu'est-ce que marque un serviteur de Dieu? Est-ce que le don qu'il possède, est-ce que ses capacités, les choses qui marquent un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un disciple de Dieu, c'est la foi. C'est la foi qui marque l'enfant de Dieu. La foi marque le véritable enfant de Dieu, tandis que l'incrédulité marque les pécheurs. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont être acceptés par Christ parce qu'ils ont la vérité. Et ce n'est pas la question. La question est de savoir ce que vous avez fait de la vérité. Nous connaissons la vérité. En principe, si vous êtes chrétien depuis pas mal d'années, vous connaissez la vérité. Nous connaissons la vérité. Mais la question se pose... Qu'est-ce que nous avons fait avec la vérité qui t'est confiée à nous? Qu'est-ce que nous faisons avec la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons avec la vérité? 1 Jean 3, versets 7 à 8. Jean écrit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. La question n'est pas que vous soyez sauvés en tant que croyants ou que vous soyez rendus justes en faisant de votre mieux. Mais celui qui pratique la justice est juste. La justice ou la foi en Dieu dans ma vie découle de mon caractère. Si je suis né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, ma vie manifestera le caractère de Dieu. Si je suis né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, ma vie manifestera le caractère de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses se sont devenues nouvelles. Ce n'est pas la question d'être juif ou païen. C'est la marque de l'enfant de Dieu qu'il est une personne nouvelle, manifestant le caractère de Dieu. Il fonctionne fidèlement dans la soumission à Dieu. Celui qui est un enfant du diable manifeste le caractère du diable. C'est un serviteur méchant et paresseux. Jean a continué dans 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas né de Dieu si vous ne manifestez pas le caractère de Dieu. On peut dire que je suis un enfant de Dieu. On peut appeler Dieu comme notre Père. Mais si vous ne manifestez pas le caractère de Dieu, vous n'êtes pas né de Dieu. Vous ne pouvez devenir enfant de Dieu que par la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Cela se produit lorsque vous en venez à faire confiance à Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Paul a écrit aux Galates que nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur et que Christ est mort pour vous. Et vous devez placer votre foi en lui seul. Si vous l'avez fait, alors la vérité de Dieu qui vous est parvenue concernant votre péché et la mort et la résurrection de son Fils ne sont pas enterrées dans un trou, mais vous y avez répondu en y croyant et en étant transformé par elle. Le résultat de cela sera une vie différente. Qu'est-ce que vous avez fait de votre talent? Même si c'était un talent, qu'est-ce que vous avez fait de votre talent? Qu'est-ce que vous avez fait de la vérité qui était révélée? Qu'est-ce qu'on a fait avec la vérité qui est révélée à nous? La vérité que nous possédons? Un bon arbre produit de bons fruits. Vos œuvres ne vous sauvent pas, mais si vous êtes vraiment sauvés par la foi en Jésus-Christ, vous aurez les bonnes œuvres dans votre vie. Vous serez un bon arbre produisant des fruits en conséquence. L'arbre pourri porte un mauvais fruit. Vous ne pouvez avoir cela que par la nouvelle naissance. Et quand vous serez de nouveau, votre vie sera différente. Si votre vie n'est pas différente, alors vous n'êtes jamais né de nouveau. Être un chrétien, ce n'est pas changer la religion. Être un chrétien, ce n'est pas changer ses habitudes. Être un chrétien, ce n'est pas changer le nom et ou changer l'église. Et quand vous serez né de nouveau, votre vie sera différente. Si votre vie n'est pas différente, alors que vous n'êtes jamais né de nouveau, ne vous leurrez pas. Cela ne signifie pas que vous ne connaissez pas la vérité. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas la possession de vérité. Vous avez peut-être été élevé et enseigné dans la vérité et de la vérité ou appartenu à une église ou un groupe religieux qui a la vérité, mais vous êtes comme ce serviteur méchant qui l'a enterré dans le sol. Il y a des gens qui peuvent vous parler du péché et de la venue du Christ. Il y a des multitudes de personnes célébrant Noël et Pâques chaque année, qui n'ont jamais cru en Dieu personnellement. Ils ont la vérité, mais ils n'ont jamais répondu à la vérité. Christ a dit qu'ils seront détruits comme les méchants serviteurs. Le fait est que vous devez répondre à la vérité que Dieu vous a confiée. Personne n'a jamais eu plus de vérité que la nation d'Israël. Et pourtant, Christ a dit qu'une grande partie de la nation sera condamnée comme serviteurs méchants parce qu'ils n'ont pas répondu à la vérité qui leur a été donnée. Mais en toutes ces choses, ce qui compte, c'est comment Dieu nous voit, comment Dieu nous regarde. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. On peut faire le semblant, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire croire que nous sommes des chrétiens, mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît ce que nous sommes en vérité. Donc, l'évaluation de Dieu est celle qui compte. Le principe pour les serviteurs est le même aujourd'hui. Paul a écrit sur le fait d'être un serviteur de Jésus-Christ et de se voir confier la vérité de Dieu. Je crains que même nous qui croyons en Jésus-Christ ne comprenions pas ce que cela signifie en ce qui concerne la façon dont nous vivons notre vie. Je suis dans l'obligation, en tant qu'esclave de Christ, de multiplier ce qui m'a été confié pour lui. Regardons ce que l'apôtre Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, le 5 premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 1 à 5. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Mais dans ce parabole, le Seigneur, le Maître, il a donné, partagé ses biens aux trois serviteurs. Mais jusqu'à le moment qu'ils reviennent, personne ne savait qu'est-ce qu'ils ont fait de ces talents. Et est-ce qu'ils ont fait fructifier l'argent de son maître? Est-ce qu'ils ont fait travailler l'argent de son maître? Est-ce qu'il était en train de travailler ou il était paresseux? Personne ne savait. Mais le jour où le maître il est revenu, là, toute chose est devenue dans la lumière, devenue très claire. Donc, ce que Paul il dit, et ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Est-ce que c'est comme cela, le monde nous voit comme des serviteurs de Christ ou simplement des chrétiens qui professent une religion? Est-ce que nous sommes vus comme des serviteurs de... Mais parfois, dans les églises, je pense que c'est courant, une partie de l'Église, ils pensent qu'il y a des serviteurs de Dieu et des autres sont des croyants qui remplissent les bancs. Ce n'est pas vrai. Chacun de nous, chacun des disciples de Christ, nous sommes des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de deux classes. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous appelés pour servir Dieu. Donc Paul dit, ainsi que nous regarde, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Mais est-ce que nous rendons compte que nous gardons le mystère de Dieu en nous, en tant que des serviteurs de Dieu, en tant que des enfants de Dieu? Nous avons la tendance à vouloir servir à la lumière de la façon dont les hommes nous voient, de ce qu'ils pensent de nous. Nous avons plus de soucis pour savoir ce que les autres ils pensent de nous, ce que nous faisons et comment ce sera vu par les hommes, par les autres. Nous n'avons pas beaucoup de soucis comment Dieu il va nous évaluer, comment Dieu nous regardera. Nous oublions souvent que Dieu est omniscient. On pense que Dieu ne nous regarde pas. On peut raconter des bêtises en pensant que Dieu n'a pas vu ce que nous avons dans notre cœur. Mais peu importe que les hommes m'honorent et me louent, tout ce qui compte vraiment, c'est ce que Jésus-Christ pense de vous, ce que Jésus-Christ pense de moi. Tout ce qui comptera quand je me tiendrai devant lui, c'est la façon dont il m'évaluera. Mais un jour, nous devrons tenir devant lui et rendre compte comme ses trois serviteurs. Dans la dernière lettre que Paul a écrite à Timothée, il a rappelé cela dans 2 Timothée 1, Paul a écrit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Et c'est quoi le dépôt? Le trésor de la vérité de Dieu. Paul a dit à Timothée qu'on lui confiait la vérité de Dieu, la révélation que Dieu a donnée de lui-même. Et Paul a dit à Timothée d'y être fidèle parce que c'est l'exigence d'un serviteur. Si la vérité de Dieu est présentée et que vous entendez que Dieu lui dit, Dieu dit que vous êtes un pécheur et que son fils est mort pour payer la pénalité pour vos péchés et a été ressuscité de mort parce que cette peine avait été payée, la question est, qu'avez-vous fait de cette vérité? Si vous êtes exposé à la vérité, mais que vous entendez enterré et que vous n'y répondez jamais, alors Christ dira que votre vie n'a jamais été changée par elle, parce que vous n'avez jamais cru en lui. Ce n'est pas en gardant un non-chrétien, appartenant à une famille chrétienne, une église chrétienne, que je peux dire que je crois en Jésus-Christ. Ça peut être le contraire. Vous êtes quelqu'un qui est comme un serviteur méchant et paresseux, voué. Mais pour ceux d'entre nous qui ont cru, la question est comment servons-nous notre maître? Rappelez-vous que Dieu vous a confié selon vos capacités. Dieu connaît les capacités d'un enfant, la capacité d'un adulte, la capacité d'un musicien. Il connaît la capacité de chaque personne. Nous avons tous la capacité. Et souvent nous sous-estimons, ou parfois on peut surestimer aussi nos capacités. Et on peut pleurer que pourquoi Dieu n'a pas me confié plus. C'est un grand encouragement pour beaucoup. Parfois nous pouvons nous sentir découragés lorsque nous nous comparons à d'autres croyants. Mais cela me rappelle que Dieu ne m'a pas fait confiance et n'a pas appelé à accomplir le ministère. Il m'a confié selon mes capacités et exige que je sois fidèle en accord avec mes capacités, avec ce qu'il m'a donné. Il ne vous a pas appelé à être fidèle avec ce qu'il m'a donné selon mes capacités ou moi à être fidèle avec ce qu'il vous a donné en accord avec votre capacité. Mais chacun de nous est traité individuellement. Quelle différence votre vie fait-elle pour Jésus-Christ? Quel est l'impact de votre vie? Comment allons-nous, en tant que personne à qui a confié les vérités de Dieu et qui les avons reçues de lui, fonctionner d'une manière qui l'honore? Si nous étions appelés à rendre compte aujourd'hui, comment nous évaluerait-il? Beaucoup d'entre nous sommes occupés par des choses de la vie. Nous sommes un peu trop occupés, mais il est important d'être occupés par l'œuvre du Seigneur. Sinon, ce serait comme l'esclave d'un maître travaillant pour un autre maître. Mais le Seigneur Jésus a dit que nul ne peut travailler pour deux maîtres. Si je me tiens devant le Seigneur et que je dis, « Oh Seigneur, j'étais occupé. Tu devrais voir la maison que j'ai construite et la voiture que j'ai. Viens voir ce que j'ai mis de côté pour la retraite. Tu es arrivé un peu tôt, Seigneur, mais je n'étais pas vraiment prêt. Et j'ai fait beaucoup de bonnes choses aussi, Seigneur, mais cela n'a rien à voir avec le fait d'être son serviteur. J'ai besoin de me concentrer, d'examiner comment ma vie compte pour Dieu. Qu'est-ce que ma vie produit pour lui? Qu'est-ce qu'il veut de moi, de ma vie en tant que serviteur? Comment est-ce que je l'honore? Comment allez-vous aujourd'hui? Je ne peux rien faire contre mon passé gâché. Mais je peux être comme ces serviteurs fidèles dans Matthieu 25. Aujourd'hui, je peux commencer à m'appliquer. Je peux dire à Dieu, tu m'as sauvé par ta grâce, j'ai eu la foi en toi, ma vie a été transformée par cette vérité. Dieu, je veux réaliser mon potentiel, ce que tu m'as confié. Êtes-vous satisfait de trop peu en tant que serviteur de Dieu? Votre vie compte-t-elle vraiment pour lui, étant donné la façon dont il vous a béni et confié? Si nous devions se tenir devant lui aujourd'hui, pourrions-nous dire, Seigneur, vois, c'est multiplié. Ce que tu m'as donné est multiplié. Elle a augmenté. Et tout est ici, afin qu'il puisse répondre, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous interpelle. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Seigneur, tu nous as pardonné de nos péchés, tu nous as fait de nous tes enfants, tes serviteurs. Seigneur, aide-nous à être tes enfants qui glorifient ton nom. Seigneur, aide-nous à être des serviteurs utiles, des serviteurs non paresseux, mais qui travaillent pour le royaume de Dieu. Aide-nous à avoir cette compréhension de ta parole, ce que tu voulais dire par cette parabole. Seigneur, nous sommes comme des vases en terre, mais tu nous as fait ce dépôt de cette merveilleuse vérité de toi. Seigneur, quelle grâce que tu nous as fait, Seigneur, puisque nous, les anciens pécheurs pardonnés, peut contenir cette vérité pour révéler ta gloire au monde. Seigneur, pardonne-nous pour notre pardonne-nous, Seigneur, pour ce que nous n'avons pas pu faire, nous n'avons pas fait. Et pardonne-nous, Seigneur, pour les choses que nous faisons qui n'est pas selon ton désir, Seigneur, de ta volonté. Seigneur, nous te prions que tu nous aides maintenant, Seigneur, puisque nous pouvons être tous changés comme des serviteurs utiles. Et que, Seigneur, être conscient que tu reviennes pour nous demander compte. Seigneur, nous savons que nous devrions rendre compte à toi pour tous, toutes les choses que nous avons fait ou nous n'avons pas fait. Seigneur, pardonne-nous pour le péché de commission ou de péché de omission. Seigneur, Seigneur, tu connais toutes choses. Merci parce que tu es un Dieu omniscient. Et Seigneur, ça ne devrait pas être une vérité pour nous faire trembler, mais c'est une vérité qui nous soulage, qui nous dit que tu nous regardes d'en haut et que tu conduis par ton regard et par ta parole. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu qui habite dans notre cœur. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous corrige, qui nous encourage, qui nous exhorte pour marcher dans tes voies. Seigneur, nous demandons cette prière dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.